On écoutait une introduction, enfin la bande originale de ce film Ne vivons plus comme des esclaves, qui est projeté ce soir au LAG à Liévin. Et on est dans le studio de Radio PFM avec Yanis Yuluntas, le réalisateur du film. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Alors, vous êtes philosophe, poète, écrivain et réalisateur donc de ce film, chroniqueur aussi pour les journaux cinémensuels, Le Monde Libertaire et puis les Indignés. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu d'abord la démarche de ce film ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film finalement ?
En fait, j'ai pas du tout une formation en cinéma et même un appareil photo, je m'en sers pas très souvent. Moi qui est plutôt dans l'écriture dans des revues, dans des livres. Et en l'occurrence, je suis passé à l'utilisation de ce genre d'outils par nécessité. C'est-à-dire l'appareil photo parce que je voyais qu'on ne consignait pas en Grèce la mémoire des murs d'Athènes qui parlent, qui disent énormément de choses. Donc j'ai fait notamment un livre qui s'appelle « Paroles de murs athéniens » aux éditions Libertaires. Donc je me suis mis un peu à la photographie par nécessité et ce faisant, en chemin, je me suis rendu compte qu'en tournant la molette de l'appareil photo en mode vidéo, ben on pouvait aller encore plus loin pour pouvoir transmettre un témoignage de visu sans la désinformation habituelle concernant la Grèce, puisque vivant à cheval entre la France et la Grèce depuis pas mal d'années, j'ai pu vérifier à quel point le mensonge par omission, mais même le mensonge tout court, est monnaie courante en France au sujet de la Grèce.
Alors ce film, c'est en trois parties apparemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces trois parties ?
En fait, dans un premier temps, il y a un état des lieux concernant une situation dramatique, une souffrance terrible avec une grande colère et des résistances diverses, avec des visages divers et notamment bien sûr des émeutes. Donc pour les spectateurs, vous retrouverez au milieu des émeutes en musique et dans le champ des manifestations. Mais dans un deuxième temps, il sera temps de se questionner sur les alternatives, c'est-à-dire que faire, comment faire, qu'est-ce qui est possible de faire à une époque où on est complètement colonisé au niveau de l'imaginaire, où on a du mal à imaginer des alternatives. Eh bien, on voit qu'il y en a qui existent, qui marchent, et c'est tout l'enjeu de la deuxième partie du film que de les montrer pour nous donner des idées, des perspectives.
Alors justement, quels exemples d'initiatives vous présentez dans ce film ?
Eh bien, justement parce que la situation est très difficile, que la vie d'avant n'est plus possible, on est obligé de réinventer la vie, et ce faisant, donc, d'organiser des solidarités, de l'autogestion, de l'auto-organisation dans plein de domaines. Ça touche à l'alimentation, ça touche aux soins médicaux, ça touche à la mise en réseau, l'information alternative, même des agences de presse autogérées, évidemment des radios et toutes sortes de télé aussi autogérées, et surtout beaucoup de choses sur le plan des solidarités, parce que c'est de ça dont la population a le plus besoin, et qui convainc aussi les gens que finalement on peut s'organiser autrement dès lors que l'État se désengage parce qu'il a soi-disant plus de moyens et qu'en fait il priorise le fait de rembourser une dette complètement inique plutôt que de donner à manger ne serait-ce qu'aux enfants. Et bien du coup bon, on s'organise nous-mêmes et ça marche, on arrive à le faire.
Donc la troisième partie du film, elle, prend un peu de distance, c'est une réflexion un peu plus, pas détachée, mais plus philosophique.
Oui, même si philosophie c'est un grand mot quelquefois, hein. Même moi quand on me dit philosophe c'est un peu excessif parce que j'ai pas non plus commis de grandes œuvres dans ce domaine, j'ai un peu écrit et j'ai un itinéraire dans ce domaine, mais en Grèce c'est un peu le cas aussi, c'est-à-dire que sans vouloir créer du concept au sens de Deleuze ou d'autres philosophes, on est dans une réflexion générale sur la vie en essayant de penser autrement et de concevoir une autre façon de vivre. On se pose la question, qu'est-ce qu'être humain, comment vivre ? C'est les questions centrales de la philosophie. Et justement, actuellement, on est complètement dans une remise en question des pouvoirs aussi, puisque c'est une forme de désobéissance à grande échelle qui est en train de se mettre en place en Grèce. Et actuellement aussi par rapport au mot esclave, puisque c'est un mot relativement fort, c'est vrai, qui peut sembler excessif à certains, ne vivons plus comme des esclaves, qui est la devise principale en Grèce aujourd'hui, le slogan principal qu'on voit partout sur les murs, à la campagne, dans les villes et dans les manifestations. Ce mot esclave correspond à la fois à un rapport de force, de domination avec un système complètement autoritaire, tyrannique à notre égard, mais aussi à notre propre dérive à nous conduire justement par nous-mêmes comme des esclaves, c'est-à-dire à demandant toujours plus dans le domaine de la consommation, dans le domaine de l'assistanat aussi. Et c'est vrai que actuellement on est vraiment dans une réflexion sur tout ça. Même des choses qui nous semblent évidentes autrefois ne le sont plus, et on se dit de plus en plus qu'il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes en nous mettant en réseau. C'est pas du tout une démarche individualiste, hein. C'est une démarche en réseau, en collectif, sur les territoires, considérant qu'on n'a pas non plus à déléguer le pouvoir sur les territoires quand on subit, comme en Chalcédique par exemple, une déforestation délirante sous prétexte sur un petit peu d'or sous les montagnes. Voilà. Donc du coup, ben, on est dans des ZAD. Il y a de plus en plus de ZAD un peu partout en Grèce, y compris depuis deux jours à Athènes, puisqu'on vient de vendre pour 915 millions d'euros seulement une zone qui en valait au moins 10 fois plus et qui correspond à l'ancien aéroport d'Athènes, 60 hectares, plus 3,5 km de côte en plein centre d'Athènes. De côte sur la mer Égée, quoi, hein, sur le golfe Saronique, 3,5 km de côte, tout ça pour même pas 1 milliard d'euros. Et c'est un consortium chinois et d'Abu Dhabi avec un grec à la présidence de cela, pour donner une apparence, qui vont se remplir les poches, alors que sur cette zone, il y avait énormément d'initiatives qui s'étaient développées depuis ces dernières années, notamment un hôpital autogéré, Helénico. Il y avait des champs et des initiatives artistiques de toutes sortes, et surtout du maraîchage alternatif, solidaire. Donc on refuse cela et on vient de créer une nouvelle zone à défendre en Grèce. C'est vraiment une démarche globale qu'on essaie de mettre en place en se mettant en réseau, par-delà les différences aussi, ça c'est très important pour nous, c'est-à-dire même si dans les mouvements de résistance il y a des gens qui ont des visions différentes, par exemple des élections, sur plein de sujets, qui ont des origines idéologiques différentes, maintenant, on est beaucoup plus en réseau, on virgule moins, et du coup, ben, on arrive à retrousser nos manches et à agir ensemble.
Un mot quand même pour donner aussi une idée de l'ampleur de ce mouvement, hein. Ça concerne un grand nombre de personnes, et puis c'est un mouvement social qui existe depuis plusieurs années maintenant.
C'est ça, avec au cœur de ce mouvement, un quartier exceptionnel qui se trouve au cœur d'Athènes, qui s'appelle Exarchia, qu'on ne connaît pas en France, et c'est bien dommage. On parle quelquefois de Marina Leda, du Chiapas, quelquefois de Christiana, même si on n'en parle plus beaucoup maintenant à Copenhague, au Danemark. Eh bien, il faut savoir que la plus grande zone autogérée en Europe, en tout cas, elle se trouve au cœur d'Athènes. Il y a 45 000 habitants, dont un tiers, c'est-à-dire 15 000, qui vivent complètement en autogestion, dans une économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que c'est de plus en plus important, et une émission d'idées alternatives depuis ce quartier, où les gens vont quelquefois se ressourcer quand ils habitent ailleurs, pour participer un peu aux assemblées et découvrir tout ce qui se passe. C'est vraiment un foisonnement, et si certains d'entre vous, les auditeurs, avaient l'occasion d'aller dans les temps qui viennent en Grèce, eh bien vraiment faites un tour du côté d'Exarchia. C'est à 2 ou 3 jets de cocktail Molotov seulement du Parlement, c'est pour vous situer un petit peu, parce que c'est l'unité de mesure là-bas, c'est-à-dire pas très loin de la Plaka. Vous regardez l'Acropole d'un côté, l'autre hauteur qui est l'Ikebet de l'autre côté, eh bien vous avancez entre les deux, et dès que vous voyez plein de graffitis sur les murs qui ont quelque chose à dire, ça veut dire que vous commencez à rentrer dans Exarchia, et là vous allez jusqu'à la place triangulaire, et ben, vous rentrez dans les différents lieux, vous découvrez notamment le Nosotros sur la rue Thémistocle, et vous verrez que vraiment, non seulement un autre monde est possible, mais il est déjà en marche. Il suffirait de s'y mettre un peu plus dans tous les autres pays d'Europe actuellement, pour qu'on puisse peut-être trouver une solution globale à ce problème global.
Αδερφέ μου, τα δάκρυα σου μη σκορπάς και τα όνειρά σου μη παρατάς. Τις εντολές τους μην ακολουθείς, κούλος ξανά.
Υπάρχουν για σφαίρες. tenía que guiar.
Να μη ζήσουμε σαν πουλί.
On est toujours en compagnie de Yanis Yuluntas, réalisateur de ce film Ne vivons plus comme des esclaves, qui est projeté donc ce soir au LAG à Liévin à partir de 20h. Alors dans le studio de PFM, il y a aussi un revenant, un ancien de PFM, Olivier Bouly. Olivier, salut.
Salut Nico, salut à tous.
Tu fais partie de l'équipe du LAG donc qui co-organise, enfin qui organise cette projection ce soir. Et tu voulais enchaîner avec une question pour Yanis.
Oui, alors on sait malheureusement qu'il y a un mouvement très important de néo-fascistes en Grèce. Est-ce que aussi ces gens-là, structure ou organise quelque chose, ce qui serait de l'ordre d'une réponse, mais malheureusement d'extrême droite pour les Grecs. Est-ce qu'il y en a malheureusement quelques-uns aussi qui sont sensibles à leur réponse ?
Oui, malheureusement, et ils sont assez actifs sur le terrain, notamment dans des violences à l'égard des migrants, à l'égard aussi des opposants. Ils essaient de savoir de plus en plus d'informations concernant les antifascistes, les personnes qui sont au cœur des initiatives, pour essayer de nous couper un petit peu l'herbe sous le pied, voire de nous mettre des bâtons dans les roues, voire des couteaux dans le ventre, comme ça a été le cas pour Pavlos Fissas, qui faisait partie de notre mouvement social, le rappeur Killapé, qui a été assassiné le 18 septembre dernier. Donc oui, c'est vrai qu'on est dans un rapport de force avec eux et qu'actuellement ils détournent la colère au service du système, puisqu'on sait bien que les chiens d'attaque que sont les néofascistes, notamment en Grèce et pas seulement, sont en quelque sorte la solution de remplacement pour le système quand les chiens de garde des médias officiels ne sont plus suffisamment efficaces pour entretenir les illusions. Et dès lors, on voit monter ce néofascisme comme en Grèce dans des proportions qui sont importantes, mais néanmoins je voudrais modérer cela parce qu'en fait en Grèce, le masque de ces mouvements est quand même assez transparent et on voit très bien leur position néo-nazie même, hein, carrément, disons le mot, puisqu'ils vendent Mein Kampf en grec sur les tables de presse, ils ont fait souvent le salut nazi au Parlement, ils appelaient leur leader Prince Führer. Du coup, on n'a pas vraiment un dépassement d'un seuil, on va dire, par exemple dans le champ électoral, un seuil d'impact supérieur par exemple à 10 ou 12%, alors qu'en France, nous, vu de Grèce, on a vraiment l'impression que vous êtes beaucoup plus menacés que nous, avec au contraire un néofascisme qui utilise un masque particulièrement épais, bien maquillé, à l'allure d'une femme par exemple assez conventionnelle, aux couleurs bleu marine qui conviennent à la droite, au discours quelquefois piqué à la gauche, sur l'anticapitalisme, la laïcité par exemple, et même si en réalité quand on gratte un peu on voit bien que c'est complètement différent. Et finalement on se demande si c'est pas plutôt vous, avec cette forme de néo-fascisme bien maquillé, qui êtes beaucoup plus en danger que nous, qui sommes dans une lutte extrêmement clair, et d'ailleurs ça se voit aussi au niveau de la représentation des forces, l'impact des forces alternatives de vraies résistances qui sont dans la gauche alternative grecque, gauche critique, dans les mouvements d'objection de croissance ou libertaire. On voit que ce mouvement est très puissant en Grèce aujourd'hui, à la fois dans le champ électoral et en dehors, alors qu'en France on ne sent pas vraiment, quand on vit en France, vraiment un décollage, alors que la situation devient de plus en plus dangereuse, critique, difficile pour beaucoup de gens. Malheureusement, la colère l'esprit de résistance, ça semble partir de l'autre côté en France. Donc je me pose la question, comment ça se fait que dans un pays comme la France, la colère se trompe de côté, alors qu'en Grèce, globalement, quand même, elle est du côté des alternatives réelles. Et c'est pour ça qu'on est plutôt enthousiaste actuellement. Même si c'est dur pour nous, on est en mouvement, on est en ordre de marche au niveau des initiatives dans tous les domaines, sans tout planifier, hein, chacun a sa propre façon de faire sur des territoires, dans des lieux autogérés, etc. Mais on sent une synergie globale qu'on ne retrouve pas autant en France pour l'instant, en voyant au contraire cette menace de l'autre côté de l'échiquier politique, et c'est pour ça qu'on est inquiet pour vous.
Ce qui a fédéré aussi votre mouvement social, toutes les résistances, c'est que finalement ça avait été obligé, vu la situation catastrophique du pays, vu la rigueur vraiment draconienne imposée au pays. Bon, en France on n'en est pas encore tout à fait là, même si ça risque de se poser comme cas de figure. Mais enfin, c'est pas exactement la même chose. Et puis les initiatives qui existent, elles existent aussi en France, mais elles sont beaucoup plus minoritaire. Alors comment vous voyez ça, le caractère en fait obligé en fait du mouvement quoi.
Et oui, parce que nous, la vie d'avant n'est plus possible, comme je disais tout à l'heure. Donc du coup, on est obligé de vivre autrement. On est obligé de nous débrouiller pour survivre, par exemple. Il y a des enfants dans les écoles en Grèce qui s'évanouissent sur le coup de midi, une heure, parce que l'école c'est de 8h à 14h en Grèce. Et donc à 11h, il n'y a plus de sandwicherie bien souvent. Et en tout cas, les enfants sont épuisés, ont faim. Et je vous dis, à midi, une heure environ, on en trouve souvent qui tombent dans les pommes. On voit une prostitution de nouveau genre aussi avec des mères de famille qui nourrissent leur famille comme ça maintenant. C'est aussi au vu de leur conjoint, voire de leurs grands-enfants. C'est vraiment... Une ambiance très particulière, le nombre de suicides aussi en Grèce hein, qui était très bas et qui maintenant est l'un des plus forts en Europe, le nombre de SDF, le chômage chez les jeunes qui touche officiellement 62%, en réalité plus de 75% des jeunes. Donc forcément on trouve énormément de jeunes qui rejoignent les mouvements sociaux. Et donc voilà, il y a à la fois quelque chose de profondément dramatique. C'est vraiment une dystopie qu'on vit socialement, économiquement aujourd'hui en Grèce, hein, une catastrophe. Et en même temps, cela génère un mouvement utopique extrêmement fort, extrêmement rafraîchissant, novateur, qui reprend plein d'idées déjà en stock, bien connues de la Commune de Paris à mai 68, en passant par des idées sur la décroissance déjà anciennes, ou encore des éléments du programme du CNR à la fin de la guerre de 40 en France. Alors, il y a beaucoup de références, y compris les références à Durruti, à l'Espagne des années 30. Et en même temps de l'innovation assez fréquente. Et c'est vrai qu'on reprend par exemple concrètement sur le terrain beaucoup d'initiatives déjà existantes ailleurs en Europe et notamment en France comme les AMAP, les CEL, etc. Mais on les travaille, on essaie de les perfectionner un petit peu, chacun à notre façon ici ou là. Et du coup, ben, en fait, même si on était très en retard dans ce domaine il y a 5 ans ou 10 ans, actuellement en Grèce, on sent que voilà, c'est quelque chose qui s'étend à une grande échelle et qui est porteur vraiment d'une alternative en force. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on voit l'État être plus ou moins détruit et nous être rendus à la vie, à la nécessité de nous organiser par nous-mêmes et de mettre en place des autogestions, d'appréhender autrement notre rapport à l'environnement et à autrui et du coup de nous questionner tout simplement sur le sens de la vie.
Vous parliez tout à l'heure d'une distorsion de l'information hein, ici en France par rapport à ce qui se passait sur le terrain social et politique en Grèce, d'où l'intérêt de venir comme ça parler autour du film de ce qui se passe là-bas. Un mot sur la diffusion aussi du film.
Alors le film, vous pouvez... le regarder en gratuit sur Internet, puisque nous, dès le début, on a été nos propres pirates. Hein. Donc, on l'a mis sur Internet. Vous pouvez le trouver sur les plateformes de vidéos en ligne ou tout simplement sur le site. Vous tapez « Ne vivons plus comme des esclaves », vous trouverez immédiatement le site. Vous trouverez sur le site le film en gratuit ou des bandes-annonces. Vous pourrez télécharger les chansons du film, dont celles que vous venez d'entendre, qui sont toutes en gratuit et même pas déposées à la SACEM. Et néanmoins, on vous invite aussi, et c'est peut-être plus important encore, à venir voir le film avec nous dans des bonnes conditions techniques, profiter de la musique puisque c'est un documentaire musical, donc ça vaut le coup de l'entendre dans de bonnes conditions et surtout de le voir sur grand écran. Et enfin, peut-être plus important encore, de partager ce moment parce que c'est peut-être pas du cinéma finalement, c'est tout simplement une réalité à vivre ensemble, à partager à travers un débat qui suit le film. Et donc je serai à votre disposition ce soir ainsi que durant d'autres rendez-vous dans la région. Mais bon, ce soir à Liévin, c'est l'occasion de se croiser parce que bon, vous savez maintenant le film il commence à être traduit dans pas mal de langues et donc je suis amené à partir à l'étranger de plus en plus pour accompagner également ce film. Et donc dans les temps qui viennent, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir à Liévin, vous me pardonnerez. Cette semaine, je pars en Andalousie, par exemple, à Marina Leda, à Jerez et Séville, qui sont des lieux où ils se font beaucoup de choses aussi, dans le sud de l'Espagne, qui est à la fois très frappé par la crise, cette pseudo-crise financière qui n'est que le déplacement de la richesse, toujours plus important, en faveur des mêmes très puissants à l'échelle du monde. Et c'est vrai qu'en se mettant en réseau avec le sud de l'Espagne, avec l'Italie, comme j'étais la semaine dernière à Turin, ou avec d'autres, même avec le Maghreb aussi, qui est actuellement, qui est bouillonnant. On était en Algérie en tournée pour le film en décembre. On sent que ça bouge, on sent qu'il peut se passer quelque chose à une échelle très importante. Et donc c'est important de se retrouver ensemble et de pouvoir en parler. Donc rendez-vous à 20h pour ceux qui en ont envie.
Alors, dernier mot avec vous, Yanis Yulunta, si vous voulez bien, c'est sur la temporalité, sur l'actualité, puisque ce film a été réalisé en 2014. En 2013, il est sorti en septembre dernier. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions majeures dans le paysage politique grec ?
Alors, il a été tourné du 6 décembre 2012 à l'été 2013. Il est sorti pour le festival Groland, parce que même si c'est une affaire sérieuse, c'est nos copains, le 21 septembre 2013. Et donc, depuis, on a fait pas mal de projections, de débats, et il y a beaucoup de monde, et on est très émus. Il se passe quelque chose aussi autour de ces rencontres. Sachez que... en Grèce, les éléments majeurs n'ont pas vraiment changé, sinon simplement la façon de procéder de l'extrême droite. Les néofascistes en Grèce en particulier ont été décapités par rapport à leurs leaders qui ont été emprisonnés suite à l'assassinat de Pavlos Fissas, qui l'appelait le rappeur antifasciste du 18 septembre dernier. Notamment parce qu'il y a eu des émeutes très importantes ensuite, qui rappelaient celle de décembre 2008 en Grèce, qui avait causé la destruction de 300 banques. Et donc, du coup, le gouvernement a préféré arrêter quelques-uns des leaders d'Aube Dorée sous la pression de la rue, uniquement sous la pression de la rue. D'ailleurs, ils en ont libéré la moitié. Et ces personnes-là sont dans des prisons de luxe en attente de jugement, ils n'ont toujours pas été jugés. Et le parti Aube Dorée n'est toujours pas interdit, il a simplement subi une suspension des subventions électorales de 873 000 euros pour 2013. Et donc, depuis cette époque, on sent qu'il y a une pression une tension très forte sur le plan politique à ce niveau-là, et surtout une nouvelle stratégie qui est en train d'être mise en place par ce parti Aube Dorée, qui sait qu'il risque d'être interdit, puisque après le jugement, il sera sans doute considéré comme une organisation criminelle. Donc il a déjà déposé officiellement son nouveau nom, qui sera Aube National, pour utiliser le stratagème du Front National en France, pour essayer de se revendiquer le parti des patriotes qui veulent défendre la souveraineté, etc. Et donc le nouveau leader de ce parti s'appelle Ilias Kazidiaris, c'est un nouveau visage, plus jeune, avocat, communicant, quelqu'un qui a un gros bagou et qui est capable d'embobiner plein de gens. Voilà, c'est un nouveau visage qui rappelle vraiment ceux de la nouvelle extrême droite un peu partout en Europe, et qui montre cette menace qui existe aujourd'hui, qui est en quelque sorte de détourner la colère des gens et de proposer une réponse complètement réactionnaire et passéiste et misanthrope à la situation actuelle. Au contraire, alors qu'on peut actuellement créer vraiment un mouvement très fort, humaniste et solidaire, et plus en harmonie entre nous et avec l'environnement. Voilà, c'est vraiment une occasion formidable qui nous est donnée, que cette crise. Vous savez, le développement humain, moi, si je pouvais conclure là-dessus, c'est que le développement humain, il passe par des moments de crise, de fait, structurellement. C'est-à-dire, à la naissance, il y a une séparation, entre 3 et 6 ans, il y a un éloignement, plus tard, il y a la tentative d'autonomie du sujet, puis d'indépendance. C'est exactement comme ça que ça marche pour l'individu, avec des moments déjà prédéfinis par la nature, hein, pour l'être humain, mais aussi des moments où on vit des accidents de la vie qui sont quelquefois l'opportunité pour nous de nous remettre en question, de rebondir. Et bien, c'est exactement pareil au niveau collectif, et je crois qu'au niveau des sociétés à grande échelle, ça peut être également le cas. La crise peut être une opportunité, un moment du jugement, un moment de vérité, comme on le dit étymologiquement, les Grecs anciens en parlaient beaucoup. Et cette épreuve que nous traversons aujourd'hui, de plus en plus en Grèce évidemment, mais aussi bientôt en France, j'en suis convaincu, doit nous permettre d'ouvrir les yeux et de nous remettre en question pour tendre vers une société plus juste.
Να μη ζήσουμε σαν πουλί, να μη ζήσουμε.
On était avec Yanis Yulountas, réalisateur de ce film Ne vivons plus comme des esclaves, à voir ce soir au LAG à Liévin, c'est au 23 avenue Jean Jaurès, donc à Liévin à partir de 20h, entrée à prix libre.
Με ένα σύστημα οργανωμένο πάνω στη βία. Αυτή νομίζω ότι είναι η διαφορά της βίας των ανθρώπων που εξεγείρονται και της βίας ενός συστήματος που συνεχίζει να υπάρχει γιατί απλά χρησιμοποιεί τη βία.
Γιατί με βία θα βγάλει τον άλλον από το σπίτι του και θα μένει στον δρόμο, με βία τον διώχνει από τη δουλειά του, με βία του.
Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Passant qui danse, ce monde a perdu l'essentiel. Cloué à ton destin par la superstition. Imagine un instant, ni paradis au ciel, ni enfer sous nos pieds, ni autre diversion. Personne à remercier pour l'aube dans nos cils, quand chaque jour nouveau rien n'est aussi luisant. Essaie d'imaginer ce vœu simple et facile, l'entière humanité vivant libre au présent. Tu peux répondre en souriant que je ne suis qu'un doux rêveur, mais l'espoir est si brillant que lui partout sa ferveur. Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Imagine juste un instant. Incrédule et conscient, écoutant ta raison, peux-tu dès lors admettre entre nos différences que soient dressés des murs comme autant de prisons, cloisonnant nos tribus selon nos apparences. Imagine un pays unique et sans drapeau, où seraient révolus les guerriers sacrifices, sans clan ni religion ni marque sur la peau, où pourraient vivre en paix nos filles et nos fils. Ce désir de changer les choses pourrait bientôt gagner chacun. Si tu nous rejoins, si tu oses, et le monde ne fera qu'un. Et le monde ne fera qu'un. Et le monde ne fera qu'un. Imagine juste un instant. 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 Ce désir de changer les choses pourrait bientôt gagner chacun. Si tu nous rejoins, si tu oses, et le monde ne fera pas.